La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. De retour sur les ondes de Choc, Guillaume Laurin au micro avec mon ami Marc Bouchard pour parler d'un superbe véhicule aujourd'hui, Mercedes VUS EQS 2023. C'est, je le disais juste avant, le véhicule qu'il me faudrait, mon cher Marc, un VUS grand format bientôt chez nous.
Ben écoute, si t'es capable de vivre sans un rein, probablement que tu pourrais te le payer.
Ouais, on va parler du sujet qui fâche, à savoir la note, dans quelques instants, mais on va commencer quand même par le positif. D'abord, je le trouve magnifique, j'ai des images sous les yeux, très épurées, un gros véhicule qui paraît pas si gros sur les images. Tu l'as entre les mains?
Ouais, je l'ai rapporté, mais je l'ai conduit pendant plus d'une semaine, et effectivement, il est assez imposant, là. Il fait 5,2 mètres de longueur. C'est quand même énorme.
Ouais, ouais.
3,2 mètres d'empattement. Donc, il y a un espace intérieur qui est très, très, très abondant. 2,2 mètres de largeur. Donc, on est vraiment là dans un véhicule de grande dimension. Il faut dire que c'est un véhicule à trois rangées et que même avec la troisième rangée relevée, il reste quand même un espace de chargement qui est digne de mention à l'arrière. Donc, c'est un véhicule qui est vraiment, vraiment de très forte dimension. C'est un véhicule qui est assez lourd. On parle de 2810 kg à vide.
Oh là là, presque 3 tonnes.
Ouais, presque 3 tonnes à vide. Alors évidemment, ça fait un véhicule extrêmement lourd, mais il faut rappeler que c'est un véhicule qui est 100% électrique. Donc inévitablement, le poids des batteries s'ajoute à ce genre de choses-là, et parce que c'est bien entendu le 4MATIC, donc la version à rouage intégral que l'on connaît bien chez Mercedes, ça veut aussi dire deux moteurs.
Oui.
Donc, tu as un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière pour te permettre d'avoir justement cette espèce de rouage intégral électrique plutôt. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est un véhicule qui te donne donc une grande douceur, mais aussi une grande sécurité, peu importe les conditions dans lesquelles tu es. Et moi, j'avais la version, parce qu'il y a deux versions au Canada, il y a la 450 et la 580. Moi, j'avais la version 580, qui est la version la plus puissante. Écoute, on parle de 516 chevaux.
Ouf, oui.
Et le 0-100 en 4,6 secondes pour un véhicule, rappelons-le, qui fait 3 tonnes.
Et qui peut embarquer 6 ou 7 personnes.
Oui, c'est absolument phénoménal. Et moi, j'avais eu l'occasion, le bonheur, devrais-je dire, de conduire la version berline de l'EQS. Et j'avais qualifié cette voiture-là de meilleure voiture électrique au monde, rien de moins à l'époque. Donc, ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné, très favorablement impressionné. J'ai retrouvé plusieurs des éléments qui m'avaient impressionné dans la berline, évidemment, dans le VUS. Notamment les espèces d'écrans qu'on appelle le hyperscreen, là. Le système d'infodivertissement qui est absolument gigantesque dans ce véhicule-là.
Ouais, parce que alors là, nos auditeurs n'ont pas forcément les photos sous les yeux, mais il faut aller voir l'intérieur aussi de ce véhicule, parce que je le disais, l'esthétique, on aime ou on n'aime pas, mais c'est les nouveaux canons Mercedes qui sont plutôt assez adoucis et finalement assez réussis à mon goût, mais l'intérieur, là, on ne peut que craquer, surtout dans ces finitions claires que je vois sous les yeux avec des énormes écrans, gigantesques écrans. Il y a trois grands écrans, c'est ça, pour les passagers avant?
Plus l'affichage tête haute. Donc, imagine-toi que t'as un écran, bien sûr, devant le conducteur qui te fournit toutes les informations de conduite habituelles, que tu peux personnaliser, donc changer certains types d'affichage. T'as l'écran central où t'as tous les contrôles, l'écran tactile, qui est d'assez grande dimension et qui est en plein milieu, est un écran devant le passager, bien entendu, où ça lui permet de contrôler certaines des choses. Entre autres, mon épouse a beaucoup apprécié pouvoir contrôler directement les sièges massants.
Mm-hmm.
Les sièges sont bien entendu chauffants, climatisés, mais aussi massants, avec plusieurs types de massages. Donc, elle pouvait contrôler tout ça, pouvait contrôler le système multimédia. Ça, c'est génial.
Marc, j'ai une petite douleur lombaire, là. Je sens qu'il va falloir que je fasse un tour dans ce Mercedes.
Ben, c'est exactement ça. En fait, on cherchait des maux de dos pour être sûr de faire des longueurs. Et devant le conducteur, il y a un affichage tête haute qui est, ma foi, un peu dérangeant parce qu'il est presque trop clair. J'ai eu beau réduire la luminosité, à chaque fois que l'affichage tête-haute apparaissait, je sursautais parce que objectivement, il est assez clair, assez imposant.
Mais tu peux l'éteindre, tu peux t'en passer, j'imagine.
Oui, c'est ça, ouais. Tu peux le moduler en conséquence. Ouais, ouais. C'est aussi tout le système, tout l'infodivertissement et le système d'information est géré de façon absolument fabuleuse. C'est un assistant personnel, tu dis « Hey, Mercedes », et il te répond. Tu peux lui dire « Ben, j'ai chaud », alors il va tout simplement baisser la ventilation. Et tu peux bien sûr entrer des destinations, hein, comme dans n'importe quel système de navigation, sauf que tu as là la réalité augmentée. C'est-à-dire que quand ta destination est entrée, bien sûr, il va tracer la voie sur la carte, comme c'est le cas traditionnellement, mais quand tu arrives juste à quelques centaines ou même quelques dizaines de mètres d'un virage, ben il y a une caméra avant qui s'allume, et là, tu vois la route devant toi en temps réel, et on surimpose des flèches t'indiquant la bonne direction et l'endroit où tourner.
Ah oui, j'avais déjà vu ça dans une autre Mercedes et j'avais été très favorablement impressionné par ce gadget qu'on retrouve donc dans celle-là. On parle de quelle autonomie s'agissant d'un tout électrique si lourd?
Et voilà où le bas blesse. Parce que la version berline parlait de 540 km d'autonomie. À l'époque, là, moi, je l'ai eu tard à l'automne. J'ai fait 535.
Pas mal,
alors,
pas mal.
On peut dire qu'on était tout à fait dedans. Dans ce cas-ci, on a quand même une batterie imposante de 107,8 kWh. On nous promettait une autonomie de 459 km.
Mm-hmm.
Malheureusement, j'ai conduit la voiture au moment où il faisait moins 20. Ça a été très froid. Je suis parti de la rive sud de Montréal pour aller à Québec aller-retour, ce qui est normalement de 210 km aller. Donc, en théorie, j'aurais dû en avoir assez pour faire l'aller-retour, ce qui n'a pas été le cas. À mi-chemin entre Montréal et Québec, j'ai déjà dû m'arrêter parce que j'avais déjà perdu plus de 45% de la puissance de la batterie.
Alors, dû au froid, probablement, alors.
Dû au froid, bien entendu, et au fait que, inévitablement, tu roules sur l'autoroute, donc il n'y a pas de freinage, il n'y a pas de régénération d'électricité d'aucune façon. Donc, évidemment, le froid agit. Il y a quand même des éléments intéressants, ce que je n'avais pas fait. Tu peux préchauffer ta batterie, par exemple, pendant que, et après ça, elle va maximiser sa recharge. Dans certains cas, la voiture va le faire d'elle-même. C'est-à-dire que si tu rentres dans le système de navigation, une borne où tu veux te rendre en destination, la voiture va d'elle-même préchauffer sa batterie pour être prête à maximiser sa recharge quand tu vas arriver sur place. Mais bon, évidemment, tu dois quand même t'arrêter. Normalement, on dit que ça prend à peu près 37 minutes faire de 10 à 80 %, mais là, le froid aidant et la vitesse des bornes que j'ai utilisées n'aidant pas, parce qu'on n'était pas au maximum, elle peut prendre jusqu'à 200 kW. Moi, j'ai arrêté sur une borne à 100 kW. Après 35 minutes, je n'avais que 50 % maximum de recharger. J'ai décidé de reprendre la route et de me rendre à la maison quand même, où je me suis branché sur ma borne personnelle, mais l'autonomie a baissé de 40 à 45 par rapport à ce qui était estimé. Je n'ai pas été capable de faire mieux que 310 km avec le véhicule, alors qu'on m'en promettait 460.
Bon, tu me diras, c'est déjà quelque chose, mais effectivement, un petit peu décevant de ce côté-là. Et puis, moi, ce qui me fait le plus peur, malheureusement, c'est, je le disais, la facture qu'il faut compter pour un tel véhicule. Est-ce que tu veux nous en parler?
Écoute, la version que moi j'avais, comme je te l'ai dit, c'est la version la plus élevée, 158 500 $ de base.
Ah oui.
Plus les options, bien entendu, comme il se doit. Il y a quand même possibilité d'aller chercher, je l'ai dit, l'autre, le EQS 450, qui est un petit peu moins cher, mais bon, soyons francs, là, on parle de 130 000 $ de base.
Oui, il va falloir quand même que je trouve un moyen de gagner au loto, là, mon cher Marc.
Ouais, c'est ce que je disais, là. Tu peux vendre un rein, probablement, mais c'est pas mal la seule possibilité. Non, mais sincèrement, c'est effectivement, dans la série des VUS de luxe électrique, écoutez, il a une douceur de roulement, il a une fonctionnalité absolument incroyable. Bon, l'autonomie a été un peu décevante par temps froid, mais je pense qu'en temps normal, c'est un véhicule qui fait tout à fait le travail. Et je l'ai dit, je répète, la EQS berline est pour moi une des meilleures voitures électriques au monde. Il n'y a pas de raison que la EQS VUS ne partage pas ces qualités-là.
Alors, si vous avez un portefeuille bien garni et que vous avez envie de vous faire plaisir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci de nous faire rêver avec l'automobile chaque semaine, mon cher Marc, sur les ondes de choc.